Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec mon frérot Amin Jezaz, mon frérot d'Annemasse, avec lequel j'ai eu le plaisir de jouer au Café Ernesto et au Tsar Comedy Club à Thonon. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On s'est rencontré au festival Villeurbanne de mon autre frérot Farid Nasri, et vraiment ça a été un coup de cœur artistique et humain. J'aime beaucoup ce que fait Amin, et j'aime beaucoup sa personnalité et sa façon d'être. Je suis sûr que vous allez kiffer. En plus, on parle aussi vite l'un que l'autre. Désolé, on me fait souvent la remarque, mais je sais que je parle très vite. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer les anecdotes. C'était vraiment super intéressant de parler avec Amin sur le monde du stand-up et sur les galères qui nous arrivent, évidemment. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Amin Jezaz. Comment ça va, frérot ?
Ça va et toi, mon frérot ?
Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ah, merci, ça fait plaisir.
Hein. Écoute, plaisir partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ?
Ouais, bah après, c'est... Qu'est-ce que t'as envie d'entendre ? galères t'as envie d'entendre ?
Ah, bah, des galères de tous les styles. Qu'est-ce que vous avez en rayon, monsieur ?
J'ai de tout.
Le grand classique dans le podcast, ce sont les bides.
Ah, les bides. Hein. On peut changer de sujet. Non, les bides, tu veux... mon plus gros bide.
Ouais.
Mon plus gros bide. Alors, je parlais d'un bide qui m'a marqué, parce que c'était l'une de mes premières scènes.
Ah.
Donc, je tairai le nom de la scène, je tairai l'organisateur... Triste, hein, mais plus triste. Mais ouais, en gros, c'était il y a peut-être... Parce que moi, j'ai commencé le stand-up en 2013-2014, et d'accord, j'ai arrêté pendant 5-6 ans,
okay,
tu vois. Après, okay, j'ai rejoué 2-3 ans, puis j'ai arrêté.
D'accord.
Et il n'y a que maintenant, donc je me suis mis de manière beaucoup plus assidue. Et en gros, voilà, c'était l'une de mes premières scènes. Je suis invité par le biais d'un ami, et à l'époque, c'était qui a fait Mini le Montant.
D'accord.
Tu vois, et je vais voir l'organisatrice et je lui dis, écoute, t'as vu, je suis débutant, c'est ma première scène, me fais pas passer en premier, s'il te plaît.
Ah, malheureusement, ça c'est très souvent le cas.
Et bah, t'as vite compris ce qui s'est passé. Et en plus, j'étais impressionné parce que tu viens de commencer, je vois à l'époque qu'il y avait Bounaïmin qui commençait justement
à bien cartonner,
t'avais Alban Ivanov, t'avais Foudil Kaibou.
Oui, tu t'es retrouvé avec des têtes, bien sûr.
Frérot. Et je me dis, bon, ok, c'est pas grave. Et pour l'époque, première scène, je vois, c'était un café, il devait y avoir peut-être 60, 70 personnes.
C'était le Chinchman.
Je crois que c'est ça. Hein.
Je crois que c'est Chinchman.
Ouais, c'était Chinchman.
Ouais, j'y ai joué là-bas aussi. L'avantage, c'est que c'était blindé, mais l'inconvénient, c'est que les gens mangeaient.
Il me semble que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça. Si, parce que pendant le flop, j'ai entendu des...
T'as entendu que ça digérait.
Ouais, ça digérait bien. Un peu trop, même. Et donc, t'as le chauffeur de salle qui monte, qui commence à faire la chauffe. Et à l'époque, je me souviens, c'était un plateau, il y avait peut-être 14 humoristes. Hein.
Ouais, moi, quand j'y suis allé, je crois qu'on était genre 18 ou...
Ouais, c'est ça.
Pas loin d'une vingtaine.
Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, ça commence. Et tout de suite, j'entends... allez, maintenant, faites du bruit pour le premier humoriste, Amin Jezaz.
Mais tu le savais de combien de temps avant que t'allais passer le premier?
Je savais pas.
Surprise.
Surprise.
Oh.
Franchement, frérot, je...
Il n'y a pas un line-up affiché ou...
Y avait, mais comme je débutais, je savais pas ce qu'il était, tu vois. Oh. Je connaissais pas les règles.
D'accord.
Ouais, frérot, je me suis liquéfié.
Oh là là.
Je suis arrivé sur scène. Tu sais, à l'époque, c'était vraiment les blagues, mais les plus nulles, tu sais. Bonjour, je m'appelle Amine, je suis algérien marocain, ma mère est marocaine, mon père est au chômage. Tu sais, les premières blagues comme ça.
Oui, là, les blagues où on se présente, quoi.
J'entends le vent. Ok. Oh, bah, je la referai plus, celle-là. Au bout de 5 secondes, je la referai plus celle-là, elle fait mal. Et je commence à bégayer et tout, je sais plus trop quoi dire. Et frère, je vois plus rien, genre je vois flou.
Oh.
Je laisse un blanc, j'entends une applaudissement. Allez.
Ah, donc déjà bienveillant, ouais, quand même, bienveillant.
Et là, il y a encore un autre blanc qui arrive, j'entends une cloche. Ding, ding,
ding, ding, ding. Et c'était le Chinchman, voilà. C'est ça. C'était la cloche, oui, je m'en
rappelle. Merci, le chauffeur de salle, il revient, ça a duré, frérot.
25 secondes.
Ouais, 25, 30 secondes. Le chauffeur de salle, il me dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bah, franchement, c'est la première scène. Je sais pas, j'étais déstabilisé et tout. Il me dit, ah, bah, ça arrive. Et je dis, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et là, t'as une voix au fond qui dit, non, toi, tu reviendras plus jamais.
Oh là 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 là. Voilà. Ça fait mal.
Bizarrement, il m'a rappelé.
Bon, bah, ça va, ça va.
Mais j'y suis pas allé. Parce que j'ai pas le temps, mais en vrai, j'y suis retrouvé.
Oui, voilà. Ouais. Mais après, je pense que c'était plus pour la vanne.
Ouais, mais quand tu débutes, frérot, c'est bien. Je te jure,
mais
c'est bien.
Ouais, ouais. Bah, ce soir-là, de toute façon, n'importe quoi, t'avais pas les épaules pour.
Ouais, 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 mais voilà, c'est pour ça que maintenant, n'importe. En fait, si j'ai un conseil à donner à ceux qui débutent et tout, c'est de brûler pas les étapes. Franchement, ça sert à rien.
Même trouver les... le line-up déjà, trouver la feuille du line-up, déjà de base.
Trouve ton texte, frérot, déjà. Trouve ton
texte. Parce que j'avoue que. Bah, passer premier, c'est dur, de base. Passer premier, ouais, c'est dur. Mais quand en plus, c'est tes premières scènes. Déjà, c'est encore plus dur, mais si au moins tu le sais, tu peux te préparer, tu vois.
Ouais, ouais.
Là, toi, t'étais en mode, bon, bah, ils vont appeler je sais pas qui, et ils t'appellent toi.
Ouais, mais en vrai, tu vois, ça m'a marqué, parce que ça fait quand même 8 ans, un peu plus, je crois. Je sais pas. Ça fait un bon moment, frérot, et tu sais, moi, je tourne beaucoup partout en France. Moi, à Paris, depuis peut-être 5 ans, je suis plus trop à Paris, et on m'a oublié. Les copains et les comédie clubs ne savent plus trop qui je suis.
Ouais, mais c'est ça en fait. C'est dans ce milieu, malheureusement, si t'es absent ne serait-ce que 6 mois.
Ouais, ouais. Mais après, c'est pas grave. Moi, je suis pas défaitiste. Je sais très bien que quand je vais y retourner, il y aura les anciens copains. Déjà, je les croise.
Ah, bien sûr.
Donc, ça va aller très très vite. Mais j'ai compris que Paris, c'était pas la France, frérot. Paris, c'est pas la France.
Absolument pas. Voilà. Paris, c'est un endroit intéressant quand tu veux être visible facilement. Tu vois,
je suis pas forcément d'accord en fait. Paris, ce qui est avantageux à Paris, c'est que tu peux jouer plusieurs fois dans la journée. J'ai des potes qui font des 5-6 scènes par jour. Ouais. Mais par contre, regarde.
Et là, c'est tellement dur que ça te forge en fait.
Mais bien sûr. Là, t'as Lyon, Nantes, même là, ici dans la région, en Suisse, ça commence à.
Ah ouais, ça commence à bouger d'ouf.
Mais frère, Marseille.
Marseille, il y a le garage et tout
c'est
ça.
C'est une aigrie.
Bien sûr. Nice, il y a le Bobard Comedy Club maintenant.
J'étais à Nice la semaine dernière.
Moi, à Bordeaux, à l'époque, quand j'ai quitté Bordeaux, il y avait que 3 scènes ouvertes.
Ouais.
Maintenant, il y en a facile une dizaine.
Bien sûr, ça pullule partout.
Bien sûr.
Montpellier aussi.
Bien sûr. Vois, ouais, le Red Line et tout.
Vois, voilà. Même, moi, j'ai joué à Grenoble aussi partout. Alors, je dirais pas que c'est plus simple, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais en province. Parce que.
Non, le public est plus ouvert.
C'est pas qu'il est plus ouvert, c'est que vu qu'il consomme moins de stand-up qu'à Paris, il est entre guillemets moins exigeant. Pour moi, c'est indéniable.
Ben moi, j'en veux pas au public parisien pour ça, parce qu'en fait, ils ont tellement de choix. Qui veulent de la qualité, c'est-à-dire que s'ils t'ont choisi toi alors qu'il y avait 400 autres spectacles, ils veulent que tu sois bon, et c'est normal. Mais j'avoue, et puis il y a peut-être un côté blasé aussi de « on en a vu 400 des comme toi
».
Donc voilà, c'est pas grave.
D'un côté, c'est
pas grave.
C'est
quelque part, mais regarde, moi je vois ça, j'ai déjà dû le dire dans le podcast, je vois ça comme la machine à gravité là dans DBZ.
Oui.
Quand Vegeta il s'entraîne à 300 fois la gravité. Ouais. Et bien Paname, c'est ça. Paname, c'est tu t'entraînes à 300 fois la gravité, et quand t'arrives en province... T'arrives et les gens, je suis pas en train de dire qu'ils sont teubés, hein. Non, ils sont en mode, il y a beaucoup moins d'exigences. Donc ça veut dire que toi qui arrives à faire un truc qui cartonne à Paris, tu vas surcartonner en province.
Là, je suis d'accord et à la fois pas d'accord. D'accord dans le sens où.
Je vais prendre le côté d'accord.
Voilà. D'accord, on va commencer par le d'accord. C'est qu'en fait, à Paname, comme t'as dit, il y a beaucoup d'humoristes et en fait, tu peaufines ton style et t'essaies d'être le plus. C'est un peu comme à Montréal, d'être le plus toi possible.
Ouais.
Ça veut dire que. Dès lors où tu es en sincérité avec toi-même, dès lors où tu fais ton stand-up, parce qu'il y a autant de stand-up que de stand-upper.
Absolument.
Tu vois, dès lors où tu te rapproches le plus de toi-même, de ton clown, exactement, là tu vas commencer à. Il y a plein de mecs comme ça, moi je les vois. Adèle Fougazi qui maintenant, franchement, frérot, j'ai vu son évolution. Après, il y en a plein. Moi j'aime beaucoup, c'est mon frérot. Hein. Il y a Antoine Tartra aussi.
Antoine Tartra, bien sûr.
Ouais, je l'ai vu évoluer, j'ai commencé avec lui, moi. Il faisait partie d'un groupe, je l'ai vu évoluer, il y en a plein, franchement, bref. Que je vois et ça me fait grave plaisir. Par contre, le côté négatif, c'est que en étant sur Paname, que tu le veuilles ou non, même si tu te rends pas forcément compte, t'as le style parisien.
Oui, alors c'est le danger en fait, c'est de faire un sketch parisiano-parisien. Évidemment, si tu vas jouer dans le fin fond de la Vendée et t'arrives et tu fais ouais, on est d'accord, le RERB.
Non, tu vois pas des vannes. Je te parle vraiment de la façon de faire. Tu vois,
genre punchline, quoi.
Non, t'as cette façon-là et t'as aussi des fois c'est des petits détails, des petits trucs. La manière dont ils tiennent tous le micro, genre au bout du truc.
Ah, ça me fait bizarre ça.
Et bah, tu vois, ça, avant c'était le mec qui tenait.
Oui, le pied de micro.
Voilà, ouais. Maintenant.
D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a un copain à Toulouse qui m'a dit qu'il a arrêté le lieu dans lequel il jouait. Il a arrêté d'acheter des pieds de micro parce qu'à chaque fois, les mecs, ils les pétaient. Ils trafaient, tu sais, genre, ils commençaient à triturer comme ça avec leurs mains et tout. Et après, crac, ça cassait au bout d'un moment.
Hier soir, mais moi, je l'ai fait. Après, moi, je joue. Moi, je suis stand-upper, mais j'aime la comédie. J'aime le jeu. Tu vois, j'aime, on appelle ça les act-out, mais. Moi, je fais beaucoup de storytelling et j'aime de moins en moins la vanne pour la vanne, en fait. Tu vois, je suis plus dans...
Un propos, avoir un propos.
Ouais, je pense que c'est important. Et plus tu grandis, plus aussi tu... Voilà, t'es de plus en plus mature. Mais pour revenir à ce que je te disais par rapport au style, moi, quand j'ai débarqué, donc là, j'ai débarqué en 2000, post-Covid, 2021, à Genève.
Ouais.
J'ai fait un peu toutes les villes de Suisse. J'ai fait Genève, Lausanne, Neuchâtel. Il y a plein de comédie clubs aussi un peu partout.
D'accord.
Et le premier truc qu'on m'a dit, c'est « Mais tu viens de Paris, toi ?» Je dis « Pourquoi ?»
Ils ont reconnu tout de suite.
Parce que ouais, t'es punch, 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 punch.
Parce que t'as pas dit bonjour.
Parce que je suis arrivé, j'ai imité ta fin tout le monde. Il est violent, lui.
Ils ont reconnu ton style parisien.
Ouais.
Ah ouais.
On m'a dit direct, je dis « Pourquoi tu dis ça ?» Il dit « Parce que t'es dans la punchline tout de suite, tout de suite. » Mais en fait, à Paname, c'est qu'on est conditionné à faire ça. C'est-à-dire que quand tu joues...
Parce qu'on te donne que 5 minutes.
Ouais,
mais faut que tu sois efficace.
Mais sur 5 minutes, moi j'ai vu des mecs pas connus, mais qui m'ont fait pleurer de rire, plus qu'un tel ou un tel qui est connu. Mais vas-y, maintenant, ce qui compte, c'est pas ton 5 minutes, frérot. Son 5 minutes, c'est ton CV. Ce qui compte, c'est ton heure. Ce qui compte, c'est ce que tu dégages, tu vois. Et t'as des mecs qui sont très bons sur 5 minutes et pas ouf sur une heure. Et vice versa, t'as des mecs qui sont des tueurs sur une heure et qui sont pas ouf sur 5 minutes.
Il y a tous les profils, ouais.
Voilà, mais en vrai, une fois, c'est Oumout, il disait un truc intéressant, il disait, les gars, ça sert à rien de speeder. C'est-à-dire, prenons le temps qu'il faut prendre, tu vois. C'est en fait, t'es un bébé. J'ai bien aimé cette métaphore, c'est qu'en fait, quand tu commences, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ça fait 3-4 ans, bah, ouais. 3 ans.
Et ben c'est ça, c'est une métaphore très connue de Jerry Seinfeld. Je crois que c'est dans Comedian qu'il a dit ça. Il a dit, ouais, genre, le stand-up, c'est comme la vie. Quand t'as, 3-4 ans, voilà, de stand-up, c'est comme si t'avais 3-4 ans dans la vie. Quand est-ce que ton stand-up commence à devenir adulte et un peu
piges, ouais,
au-delà de 20 piges, 30 piges? Lui, à ce moment-là, je crois qu'il avait déjà 30 bonnes piges de stand-up, bah, déjà.
C'est quand même un bon truc, hein.
Excellent.
Là, moi, justement, on en parlait avec, Oumout. C'était il y a très longtemps, on parlait de ça. C'est dans les loges du Paname et j'avais trouvé ça.
Ouais, c'est fort. Et moi, je m'en rends compte aussi, tu vois. Mon stand-up d'aujourd'hui n'est pas du tout le stand-up que j'ai commencé. Tu vois, moi, ça fait 11 ans. Mon stand-up d'aujourd'hui n'est pas le stand-up d'il y a 11 ans, quoi.
Mais tu vois, ça, c'est bien ce que tu dis parce que t'as des personnes qui assument pas. Ils assument pas le fait que ça fait. Tu sais, moi, je vois des mecs.
Ils disent, ouais, non, ça fait 2 ans. Frérot, tu te rappelles, je t'ai vu bider il y a 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment.
Je te jure, j'ai des photos de moi sur Facebook, je les ai retrouvées dessus, au Tekezen Bar.
J'ai joué au Tekezen avec Ismaël.
Avec Ismaël, comment ça
s'appelle? Ismaël Isma.
Ismaël Isma.
Ouais,
Ismaël,
oui.
Isma, au Tekezen Bar.
Adorable. J'en profite pour le saluer, il est super gentil.
Il y avait Ibaz, il y avait Jamel Kaibou,
oui.
Il y avait Merwan B.
Déjà
Merwan B.
Ah ouais, mais donc t'as vu ses premières scènes.
Lui, il l'a su, mais c'est un mec qui va.
Ah, mais il le dit dès le départ. Hein, il dit qu'il a commencé avec Kairon et tout. Tu sais, il prenait des cours d'impro avec Kairon, tout ça.
Merwan B, il est
d'accord. Ah ouais.
Il est même pas surprenant.
Il est excellent, c'est clair.
Il est devenu un monstre.
Ah ouais, super.
Il y avait Merwan B. Et dis-toi, il y avait qui avec moi? Il y avait le célèbre, pas youtubeur, mais mec de Twitch, Amin m'a tué. Parce qu'il traînait beaucoup avec. C'est un mec sur Twitch.
Je connais de nom, ouais, je connais de nom.
C'est un mec sur Twitch et tout.
Ouais.
Et
il a joué sur scène.
Ouais, et comment, il a commencé avec Merwan. Les deux, ils ont fait les cours de Kairon. Et maintenant, lui, là, c'est devenu un ovni. C'est devenu le mec qui fait le plus de vues, je crois, en France. Ou,
bien.
Ouais, il est au même niveau que Squeezie. Je sais pas, je vais pas dire n'importe quoi, mais. Mais ouais, je sais qu'il tourne bien là-dessus. Et puis voilà, donc tu vois, c'est des mecs qui. Tu vois, je sais qu'il y a des podcasts, il y a beaucoup de jeunes débutants qui écoutent. Et franchement, si je peux donner un conseil sans faire l'ancien. Hein. C'est les gars, prenez votre temps, et le stand-up, c'est une course de fond. Genre,
c'est pas un 100 mètres.
Si tu veux juste être connu pour être connu, frérot, fais de la scène et fais YouTube.
Fais autre chose. Il faut aimer la scène parce que la scène, c'est dur. Parce qu'il n'y a pas que les lumières de la gloire et tout qui nous attendent, tu vois, sur scène. Il t'attend aussi le gars bourré qui va te parler pendant ton set, les bides. Les soirs où toi t'es pas dedans, va savoir, tu vois.
J'ai un deuxième bide à raconter.
Allez, raconte, fais péter, frérot.
J'étais à Nice, je crois que ça s'appelle l'Oxford.
Oui, c'était une des. Je crois que c'était la première scène ouverte de Nice.
Exactement, c'était Grosse Prod qui
Grosse
gère
Prod,
ça,
oui, c'est ça.
Grosse Prod,
qui gère maintenant le Bobard.
Le Bobard,
voilà.
Gros bisous à eux.
Ah oui, gros bisous, Pascal.
Parce que j'ai vu Pascal.
Pascal Schiavone, adorable.
Et même sa copine, ils font des choses en couple. Et
ça fait plaisir.
Ils font un très très bon boulot. Ah, adore, ouais. Et j'ai vu leur évolution, et c'est un mec, je l'ai vu galérer, je l'ai vu faire, et petit à petit ça progresse, et je souhaite que du bonheur.
Yes.
Bref. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive, moi, sur Nice en vacances.
Et t'as le réflexe du stand-upper.
Bah ouais.
Tiens, il y aurait pas une scène dans le coin.
Et au final, j'apprends qu'il y a une scène par un pote, et je joue avec lui.
Ouais.
Et il me dit, vas-y, viens à un comedy club ici, on y va. Je vais dans ce comedy club, une fois ça fonctionne de ouf, la deuxième pas trop, et là, comme par hasard, tu te sens chaud, t'sais, moi j'avais déjà 2-3 ans de stand-up dans les pattes, tu vois, donc je me suis dit, je suis un peu plus haut que eux qui viennent de débuter,
ouais.
Tu vois.
Donc t'avais un peu trop de confiance peut-être.
Ouais, mais...
La confiance c'est l'ennemi du stand-up.
Alors frérot, écoute bien ce que je veux te dire. Là, dans mon infime gogolitude... Et j'ai des potes de Paname qui viennent. Et il y a un pote qui me dit, écoute, t'as vu, là, je suis avec ma meuf et tout. Vas-y, tu sais, t'étais marrant, vas-y, viens, vite-moi. Je dis, écoute, hey, viens au Comedy Club. T'inquiète.
T'inquiète, je vais tout déchirer.
Alors là, frérot, j'arrive dans le Comedy Club, il se pose au
dos. Est-ce que quand tu marchais, t'étais au ralenti?
Ah, frérot, j'étais... Non, quand je sortis, j'étais au ralenti.
Ah, d'accord.
Quand je sortis, j'étais vraiment...
Non, tu sais, je te voyais rentrer beau gosse avec une petite musique, ah ouais, et tout. Attends. Les pas au ralenti, genre, vous inquiétez pas, tu sais, avec un petit... C'est genre le petit regard à ton pote avec le doigt qui pointe comme ça. Genre, t'inquiète, mec, fais-moi
confiance. Je m'occupe. Et ce qui se passe, c'est que je suis dans le comedy club. Le show, bah c'est Pascal, hein, je crois, Pascal qui fait la chauffe. Il m'envoie genre deuxième, je crois. Je commence à monter sur scène, je commence à faire une blague, deux blagues. Et là, j'entends une voix dire, peut-être doucement, hein, encore en arabe.
Ouh.
Je dis, oh.
Ah ouais.
Et tu sais, moi, je faisais un peu d'impro. Et tu sais, je dis, quoi? Et là, je vois une longue table devant moi,
ouais.
Que des crânes rasés, frère. Que des crânes rasés. Ah, ouais. Et je savais que dans ce quartier-là, dans le Vieux-Nice, je crois...
Il y avait des skinheads.
Il y en a pas mal, ouais.
C'est bizarre, pourquoi... Enfin, c'est pas l'endroit où tu t'attends à les retrouver, parce que, justement, dans le stand-up, ben, je pense, c'est là où il y a le plus de variété.
Mais je pense qu'ils savaient pas qu'il y avait un comédie.
Ah, ils étaient venus boire un coup.
Je crois, ouais. Ils étaient venus boire un coup. Et après, il y avait ces mecs-là, et je crois que c'est le même coin où Donald Justman avait fait son spectacle.
Possible.
Il s'est fait insulter de salle noire, là.
Ouais, ouais. Et donc, toi, en gros, t'as dit quoi?
Et j'ai dit, ouais, t'as dit quoi? Et au final, il y a un mec qui me dit, ouais, t'es pas marrant. J'ai dit, oh, je viens de commencer, comment je suis pas marrant? Et là, je fais une erreur de gogol, tu sais, donc le seum se voit sur mon visage, tu vois. Et je dis, bah, je suis pas marrant, vas-y, monte sur scène.
Je l'ai faite aussi, hein, cette erreur. Mais je le fais plus maintenant. Parce que tu prends le risque que le mec te mette un malaise comme pas possible et tout.
Il est monté sur scène. Je dis, vas-y, je peux m'en faire une blague maintenant. Et en fait, il me dit, non, j'ai pas de blague à faire. Je dis, voilà, pourquoi t'es monté? Et genre, en fait, j'avais le seum, j'ai cherché à...
Tu voulais le ridiculiser,
ouais,
en fait.
Mais en fait, je me suis ridiculisé, moi. Et au final, frère, le malaise, il était tellement... Mais... Oh. Carrément, là, je t'en parle, j'ai envie de dormir. J'ai envie de commander un autre big game, là. Ah, j'ai envie de manger. Je lui dis écoute, je lui dis, nanana, genre mon pote, il est avec sa meuf, les deux, ils baissent la tête.
Oh, ils t'ont renié.
Gros, j'ai dit, merci beaucoup, rassis-toi. Je suis sorti direct, j'ai dit merci.
Ah, t'as pas continué?
Frère, j'ai continué, mais c'était fini. Tu peux avoir le meilleur sketch que tu veux, tu peux avoir. Ouais. C'est fini, ça
t'avais, t'avais abandonné le combat devant tout le monde, voilà. Et plus personne voulait t'écouter.
J'étais plus gentil, j'étais le connard, enfin le connard. Les deux on est passé pour des connards, du coup.
Ouais.
En fait, dès lors où tu te venges, c'est qu'il y a un côté malsain dans la vengeance.
En fait, les gens veulent que tu te venges, mais artistiquement.
Ouais, exactement.
Faut que tu mettes une vanne, faut que tu mettes tout le monde d'accord avec cette vanne et que le mec ferme sa gueule. Voilà. Là, ouais, là t'as gagné.
Là,
mais là, en l'occurrence, non, c'était juste un combat de coq.
Ouais.
Et ouais, je comprends. Oh.
Et donc, je suis sorti, frérot. Je suis sorti tête baissée, frère.
Oh, dur.
Je me suis posé dehors. À côté du Comedy Club, je me suis assis. Le vigile, il est venu me voir, il m'a tapé dans l'épaule, il m'a dit, écoute, c'est pas grave, c'est le taf. Il est parti, je commençais à réfléchir. Mon pote, il est venu me voir, il m'a dit, ah gros, il a remonté le moral. J'ai dit, écoute, c'est même pas contre eux. En fait, je leur en veux même pas. Je m'en suis voulu de pas avoir été assez
bon,
vif d'esprit pour
sortir. T'avais pas la répartie sur le.
Et au final, les mecs, ils sortent. Les 10 personnes, ils sortent.
Ah, les skinettes, là, ouais.
Ouais, et ils me regardent genre trop mal. Je me suis dit, ils m'ont saoulé. Et il y en a un qui, je vois, il commençait à vouloir menacer. Ça commence à chauffer, puis je me suis dit, vas-y, je sais pas à quoi je joue. J'ai dit, écoute, c'est pas grave, bonne soirée, merci beaucoup.
Ça va mal finir, quoi.
Et au final, tu les voyais, ils étaient là tous avec crâne rasé, grosses bottes, queue entre eux. Et tu sentais que. Je sentais un truc malsain, et je leur dis, c'est pas grave, partez.
En fait, tu sentais, je pense, que ça les dérangeait pas si ça devait partir en grosse bagarre.
Oui, bah oui, large, large, large. Après, oui, je vais pas faire le fou non plus, je suis tout seul, ils sont 15, frérot.
Ah ouais.
Je sais pas. Jordan, t'es mort! Non, mais en vrai, et puis même, c'est pas mon rôle. Tu sais, notre rôle, c'est. Enfin,
non, t'es venu là pas pour te battre, t'es venu là pour faire rire les gens.
Et surtout que moi, mon stand-up à moi, il est pas politique. Moi, comme tu l'as vu, on a joué ensemble hier soir.
Ouais.
C'est que.
Moi, c'est bienveillant.
Une fois, c'est quoi? J'ai joué la première fois de ma vie avec Yanis Kebab.
Oui.
La semaine dernière.
Ouais.
Et on a le même état d'esprit. C'est-à-dire que moi, je m'en fous de qui t'es. Dans notre métier, il est chelou. Hein. On a peut-être fait rire des tueurs en série. Moi, si je peux offrir un peu d'amour, j'ai pas envie de savoir de qui t'es. Juste, vois ce que je peux te poser.
Tu es un spectateur, point.
Voilà. C'est-à-dire que, moi, mon taf, c'est que si pendant ta carrière, t'allumes ta télé, mon frère, tu vois toute la merde qu'il y a. Y a pas un jour où il y a pas la merde, et actuellement, de plus en plus.
Ouais.
Tu vois, donc même moi, je coupe la télé, je coupe même les réseaux.
Je regarde pas, moi.
Voilà.
Mais, la télé, je peux plus.
Tu sens que c'est tendu, frérot. C'est-à-dire que si demain, moi, j'arrive pendant une heure et demie à faire rire et à faire oublier ça aux gens et de redonner ne serait-ce qu'une once d'amour à des gens. En vrai, c'est pas une parole de philosophie.
Tu veux les faire évader en fait de leur quotidien et des mauvaises nouvelles, quoi.
Parce que en vrai, notre taf, il est super compliqué dans le sens. Et encore une fois, je blâme personne. Chacun est libre de faire son stand-up. Tu vois, c'est que moi, c'est mon avis.
Ouais.
Peut-être que ça évoluera avec le temps.
Tu veux pas mettre ton avis politique sur scène.
Voilà, c'est même pas une question de je veux toucher plus en public et tout. Frère.
Tu sens que t'es pas là pour ça en fait.
C'est que moi, voilà, c'est que bien sûr que j'ai un avis, bien sûr que en tant que musulman français, mon père est mon père son âme, il est algérien, ma mère elle est marocaine, moi je suis né à Paris 12, tu vois, mais j'ai grandi dans une famille musulmane. En tant que musulman né en France,
t'as forcément un avis, une opinion sur ce qui se passe. Et
bah,
tout,
forcément, tous les jours on parle du voile, on parle de ça, on parle de le conflit israélo-palestinien. Frérot, moi, quand on parlait du voile, même de la baïa, frérot, ça me fait trop mal parce que moi, je vois les coulisses. Je sais, frérot, bref.
On devrait vivre ensemble, tout simplement.
Enfin, bref.
En fait, ça t'affecte trop, je crois comprendre ce que tu veux dire. Ça t'affecte trop pour que tu puisses en faire des blagues, en fait. C'est-à-dire, t'es trop proche du truc pour pouvoir en faire des vannes derrière.
Je pourrais faire des vannes là-dessus, c'est juste que.
Il y a trop d'affect, en fait, non?
Je sais même pas s'il y a de l'affect, c'est pour l'instant, c'est pour faire quoi? Pour dire la même chose que les autres? Tu vois,
ouais.
c'est pour être, tu vois, peut-être que mon discours il va changer avec le temps, tu vois, vu que ça m'a fait, peut-être que, là t'as vu, je suis pas connu, je suis personne. Si demain ça pète pour moi et que je sens que j'ai un auditoire.
Voilà. Ouais, un auditoire, ouais, t'as des gens qui t'écoutent, quoi,
j'ai
vraiment.
J'ai beaucoup de gens qui m'écoutent, peut-être que j'aurai un message à faire placer, et encore, je vais pas te mentir, frère. Je pense pas que j'en sois si bête que ça, gros. Parce que t'as la télé qui, t'as sur BFM, les gens le savent. Du moins ceux qui ont grandi, ceux qui ont été à l'école avec nous, tu sais, on a été dans en banlieue ou même ou pas, tu vois, on a été dans des écoles. Moi, je fais des comedy clubs, t'as vu, hier soir, on a fait un comedy club.
Ouais.
Ce que j'aime bien au café, c'est que il y a de tout. Il peut y avoir des vieux, des jeunes, des caïras,
des anglophones hier
des
aussi.
Anglophones, bref. Et t'as vu là, hier, il y a des.
Un melting pot, quoi.
Et hier, il y a un blond, yeux bleus. Alors lui, il y a Julien Doré, tu vois.
Dave, il était trop gentil.
Mais gros, il nous a dit quoi direct? Pourtant, c'était une équipe de. Une équipe, il n'y avait aucun rebeu, aucun renoi.
Que dalle.
Et c'est les premiers à nous avoir dit, les gars, vas-y, venez, on fait une soirée chez moi. On y est allé, c'était super.
C'est cool, bah ça, c'est le partage.
Mais parce que c'est des mecs. Et moi, je comprends ça. C'est-à-dire qu'après, on a discuté avec eux, c'est des mecs qui sont. Ils sont intelligents et ils ont. On vit, c'est tout.
Bah oui. De toute façon, on est bloqués ensemble. On est dans le même pays. Personne va partir. Tu vois ce que je veux dire? Personne va partir. Donc, vivons ensemble. C'est tout. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça. Tu vois, et le vivre ensemble, on n'a pas le choix, de toute façon.
En fait,
faut qu'on se supporte. Faut qu'on vive ensemble. C'est comme ça.
Moi, ça me saoule d'avoir encore ce genre de débat maintenant. Tu vois, si je me dis, c'est tellement logique. Tu vois, c'est tellement logique et en vrai, bien évidemment que le racisme, il existe.
Bah,
bien
évidemment. Il existera toujours.
Bien
mais
évidemment.
On n'a pas le choix. On doit vivre ensemble et c'est comme ça qu'on va avancer. Et on va profiter chacun des richesses, de la diversité, de tout ça, tu vois. On n'est pas un pays monochrome, tu vois. On est un pays multiculturel, on est un pays riche de sa diversité, de beaucoup de choses. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on vive ensemble. On ne demande pas aux gens d'accueillir des étrangers chez eux dans leur maison. Hein. Mais mec, accepte que les autres vivent comme toi. Accepte que, voilà. Tu sais, il y a des gens, Moi, je les entends parler des fois, tu sais, t'as des gars, ouais, mais de toute façon, genre les étrangers, machin, genre ils coûtent plus cher à la France que je sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Ils ont fait des études là-dessus, ils ont calculé.
J'ai vu.
Ils ont fait donc le calcul de combien rapporte le rapport entre ce qu'apporte l'immigration en France et ce que coûte l'immigration en France. Et ils ont vu que le rapport était positif. Au final, c'est quelque chose de positif. Et même si c'était pas le cas, c'est toujours une richesse d'être à plusieurs cultures et tout, de bénéficier de beaucoup de choses comme ça. Tous les gens qui sont ouverts et t'es ouvert d'esprit et tout, et bien, qui vivent avec les autres en paix, c'est ceux qui ont voyagé. Parce que quand tu voyages, en fait, bien ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre le cœur.
Pour moi, c'est, comme je disais avec mes potes, hein, c'est les dépenses les plus utiles. Tu vois,
bien sûr.
Tu perds pas de l'argent en voyageant.
Évidemment. Tu t'enrichis, en fait. C'est le seul investissement dans lequel vraiment tu t'enrichis. Tu donnes de l'argent, mais tu t'enrichis quand même. Quoi. C'est magnifique. C'est
super. Et si je peux revenir sur Paris, en fait, il y a un truc, moi, ici, qui m'embête un peu à Paris. Enfin, ouais. Plus maintenant, c'est que...
Anne Hidalgo. Ouais, je sais, frère. Je sais. C'est galère, mon fait avec. T'as vu. Anne Hidalgo. Voilà.
Ouais, c'est vrai. Toutes les voitures de France. Anne Hidalgo. Non, mais en gros, ouais, moi, en fait, c'est les courants de pensée, moi, qui m'embêtent un peu, tu vois. Je sais que il y a, par exemple, quand tu joues au Barbès ou...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Après, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais je le sens. C'est-à-dire que quand tu joues au Barbès, c'est cette ligne éditoriale-là qui marche le plus. Quand tu joues au Paname, c'est plus un style comme ça. Si quand tu joues au Fridge, tu vois, ça m'embête. Quand t'es ici, à Montréal, par exemple, moi j'ai des potes ils sont partis vivre là-bas ils font l'école de l'humour.
Oui.
Tu vois, c'est
l'école nationale de l'humour, voilà. Génial.
Et en gros, ils m'ont dit que ça change beaucoup de Paris, mais ça commence à venir à Paris. C'est que c'est des courants de pensée. C'est-à-dire que le féminisme, pas poussé à l'extrême, mais
il est intégré par tout le monde.
Il est intégré par tout le monde, mais il faut faire très attention à ce que tu dis, tu vois.
Ouais.
Genre, parce que.
Oui, c'est très woke.
Voilà. Après, woke, je sais pas, genre, j'ai parlé avec des gens, mais il y a des personnes qui.
Mais c'est pas négatif, hein, quand je dis ça.
Je sais,
c'est
genre, mais il y a des personnes qui, pour eux, c'est négatif, mais.
Genre, tu vois, genre, au même titre que le féminisme est bien intégré et qu'il n'y a pas intérêt à dire une dinguerie sur les femmes, tu vois, si c'est pas une vanne de bâtard. Si c'est pas une excellente vanne et qu'on comprend pourquoi tu l'as utilisé, un peu à la Bill Burr, tu vois.
Ouais.
Bill Burr, il dit des dingueries. Mais après, quand tu le laisses finir, tu dis, ah ouais, en fait,
c'est bien tourné.
Au même titre qu'il y a ça, il y aura ça aussi pour les musulmans, par exemple. Il y aura ça aussi pour la communauté LGBT, tout. C'est-à-dire, c'est le vivre ensemble, quelque part. J'ai l'impression qu'à Montréal, ils y arrivent beaucoup plus que nous ici, tu vois.
Je sais pas, j'y suis pas, je sais pas. Moi, je me méfie, si je te parle sincèrement, je me méfie beaucoup de les on dit, tant que t'es pas sur le terrain, tu vois pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un genre, mais moi, je l'ai vu, hein, je te jure, je me suis senti... On m'a dit, ah là, je parle pas de Montréal, non, je te parle de manière générale. Ah, tu verras là, tu vas kiffer, ils sont très ouverts, j'y vais, et c'est une fausse ouverture d'esprit, tu vois.
Ah.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est une image qu'on donne.
C'est une image, mais après, je préfère ça que. Enfin, je sais pas.
Je comprends. Mais c'est vrai que c'est un milieu compliqué, mais après, tu vois, les comédie clubs dont tu parles, c'est vrai qu'ils sont un peu spécialisés dans certains styles et tout. Je sais pas si c'est une nécessité ou pas, mais. On va dire Paris, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. Donc, de toute façon, tu trouveras ta place.
Oui.
Tu vois.
Après, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de scènes de peur. Après, voilà, hein, c'est comme partout. Hein. Plus t'as de scènes de peur, plus t'as les niveaux qui... Il y a l'écart de niveau qui est grand. Il hein. Y a beaucoup de scènes de peur qui font ça et qui, au final, tu vois, qui bossent pas comme je te l'ai dit tout à l'heure ou qui... Voilà. Moi, ce qui me saoule, c'est les gens qui... Je l'ai été, hein. Si je le remarque, c'est que je l'ai été. C'est que pendant longtemps, je faisais la même chose sur scène, mais pendant 2-3 ans.
Ceux qui gardent le même set de 10 minutes pendant plusieurs années.
Ouais, mais au final, il évoluait pas et je m'ennuyais et je déprimais parce que je me suis dit, c'est quoi la solution pour faire ?
Oui, parce que tu stagnais, quoi.
Ouais, mais en fait, voilà, frérot, taffe ton truc. T'as des gens, franchement, mis à part bouffer du temps de jeu à d'autres humoristes, à quoi tu sers plutôt ? Je l'ai été, moi. Hein. J'en parle, c'est que je l'ai vraiment été. Tu vois, et je me suis mangé des réflexions, j'ai réfléchi derrière et maintenant, plus jamais. Tu vois, ce qui me saoule aussi également à Paris, c'est le truc de 5 minutes. J'ai jamais autant évolué qu'en faisant des 30-30. T'as bien vu, hein, hier, on a fait un 3x20.
Ouais.
Ici, frérot, on a le temps. Ça veut dire que les 3x20, carrément, c'était un 3x25, 30. J'ai fait 47 minutes hier soir. J'ai même pas fait exprès, carrément.
T'as été généreux.
Je m'en suis même pas. 47 minutes. Et encore, j'ai. Frérot, t'as vu ou pas?
Bah, j'ai vu. Mais t'étais chez toi. T'étais chez toi. Et les gens, ils t'écoutaient. T'aurais rajouté 20 minutes de plus qu'ils t'auraient écouté.
T'as vu?
Bah, ouais.
Et c'était une bête de soirée. Et les gens, ils ont kiffé
de ouf. C'était génial, c'était super.
Et tu verras, même ce soir, ça va être pareil. Hein.
Ouais, ce soir, on joue à Tonon les Bains. Tonon les Bains. Super. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire au niveau des 5 minutes. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est frustrant. Mais en même temps, si je peux me permettre, je me fais un peu l'avocat du diable parce que j'ai commencé le stand-up quand j'étais à Bordeaux. J'ai fait 9 ans de stand-up à Bordeaux et après je suis monté à Paris. Mmh. Et là, ça fait 2 ans que je suis là-bas. Et quand j'étais à Bordeaux, j'avais du mal à me limiter niveau temps, tu vois.
Même encore.
On me donnait 10 minutes et j'en faisais 16, 17. Ah, et ouais. Je le faisais pas exprès, hein. Ouais. Vraiment. C'était pas un manque de respect ou quoi. Et là, maintenant que je suis à Paris, quand j'arrive et qu'on me dit t'as 7, mes morceaux, ils font 6,5, 6,40, tu vois. En fait, c'est tellement dur que ça m'a permis de me structurer. Ça fait qu'aujourd'hui, t'as vu, hier, je suis arrivé, t'as vu, au moment de jouer, je savais même pas combien on allait jouer. Je t'ai dit, frérot, on joue combien? Tu m'as dit, oh, 20, 25. Tu m'as dit 20, 23, un truc comme ça. Je crois que j'ai dû faire 24 quelque chose.
Ouais,
je
m'en fous,
comme quoi,
ouais.
Je suis pas encore guéri. Mais c'est pour te dire, tu vois, dans ma tête, j'arrive à m'organiser, alors qu'avant, j'y arrivais pas. Donc, c'est une contrainte, mais en même temps, ça m'a permis de me focaliser un petit peu sur le timing et à mieux maîtriser mon temps sur scène. Parce que j'avoue que c'est très dur. Le pire, c'est les 3 minutes. T'as déjà fait 3 minutes ou pas?
Ouais.
Voilà. Moi, j'ai déjà fait 3 minutes aussi à l'époque du Barbès Comedy Club, quand c'était, tu vois, l'open mic et tout. 3 minutes, t'as intérêt à être efficace et à aller droit au but, tu vois.
En fait, ça, par contre, je vais pas te mentir, c'est super. Quand tu taffes.
Quand tu débutes.
Non, mais même quand tu taffes une partie.
Oui.
Moi, tu vois, là, j'ai des textes. Moi, mes textes, ils font. Oh, j'ai des stories de. Ouais, à chaque fois, elles font entre 8 et 12 minutes mes storytelling, tu vois.
10 minutes?
Ouais, tu vois, quand je parle du bus de nuit, je sais pas si tu l'as vu.
Oui, oui, oui.
Tu vois, c'est assez long.
Ouais.
Après, je parle du crossfit, après, je parle de tout ça. Ça prend du temps. Et là, je suis en train de trouver un lien entre chaque. Mais pareil, il y a plein de trucs que je suis en train de me dire avec le recul. Est-ce que c'est assez marrant? Ok, c'est peut-être marrant sur scène. Mais est-ce que le téléspectateur, il va galerie? Est-ce que c'est assez intéressant? Parce que maintenant, on arrive dans une ère de, il faut être intéressant. Roman Frécinet, il a imposé un truc un peu comme ça, je trouve, tu vois, de par clic, où il est arrivé avec un nouveau stand-up. Un stand-up qu'on n'avait jamais vu. Moi, j'appelle ça du. Surtout sur clic. Hein.
C'est du stand-up conscient, peut-être ou...
Non, c'est de la philosophie stand-up, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Il y a un truc un peu comme ça, tu vois.
Il défend un point de vue à chaque fois.
Ouais, et puis et à chaque fois, ouais, franchement, je trouve trop fort, il est trop fort, tu vois. Mais je suis grave fan, hein, mais j'arriverai pas à le faire. C'est pas moi, en fait, je vais pas essayer de me travestir dans mon écriture, j'arriverai pas à le faire.
Ça viendra peut-être naturellement, mais pour l'instant, de toute façon, faut être, tu l'as dit tout à l'heure, faut être au plus proche de soi, tu vois. Donc voilà.
Et puis le succès, tu vois, ça peut toucher n'importe qui, frère. En fait.
Du jour au lendemain.
Quand j'ai commencé, je me suis dit, tu verras, moi, dans 3 ans, je serai là, dans 5, je serai là, dans 10, je serai là.
T'avais un plan?
Ah, oh, mais le plan, tu l'oublies direct.
Est-ce que t'avais des posters dans ta chambre? Olympia, tu sais, des photos. Genre, j'ai commencé en 2013. Allez, Olympia 2016.
Voilà. Je veux dire, moi, j'étais très.
Stade de France 2020.
J'étais très fan. Comme tout le monde, moi, j'étais. Je pense que j'étais le fan numéro 1 de Jamel Debbouze.
Ah.
Mais frérot, c'était. Quand je dis que c'était.
C'était une révolution.
Alors frère, il m'a bousillé l'esprit, ce mec-là. Je m'en souviens, j'étais en CM1.
Ouais.
CM1 ou CE2, je sais plus, bref. Un jour, je rentre chez moi, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, ah, tu viens, tu vas rigoler, viens. C'était Canal Plus en clair.
Ah.
Et on avait la chambre avec une télé. On s'est mis tous devant la télé et il y avait H qui passait.
Ah.
J'ai jamais autant rigolé de ma vie devant H et devant Jamel. Qui était.
Eric et Ramzy.
Ouais.
Ils étaient au top de leur art. Ils n'ont jamais été plus haut que ça. Pour moi. Enfin, c'est pas une critique, hein, mais c'était le maximum quand ils étaient dans H et la Tour Montparnasse.
Et 100% de Bouze aussi.
100%, ah oui. Alors 100% de Bouze, pour moi, c'est son meilleur spectacle.
Bah oui, frère.
C'est le meilleur. Ouais. Mais c'est la même époque.
Ouais. C'est même c'était 2 ans après.
Enfin, tu sais, grosso modo. Parce qu'après, si tu veux, quand il a fait son spectacle tout sur Jamel et tout machin,
c'était avant.
Non, ouais. C'était après. Le premier, c'était Jamel en scène.
Alors, le tout premier. C'est que c'est tout neuf, ça sort de l'œuf.
Mais celui-là, je ne l'ai pas vu.
Personne ne l'a vu.
Voilà.
Ensuite, c'était Jamel en scène.
Jamel en scène, moi c'est celui-là. Dans
après, ouais, quand il fait Ramadan Mutella, surprise.
Mutella, Ramadan surprise.
Tu veux un Twix? Ramadan surprise. Et après, t'as le.
Jamel 100% debout, celui-là, incroyable. Pour moi, c'est le meilleur.
Après, t'as.
Tout sur Jamel, où c'était beaucoup plus perso.
Le coup de poing claque derrière la nuque, ouais.
Ouais, il parle de son père et tout. Voilà, et puis après, il a fait Maintenant ou Jamel. Et celui-là, c'est son dernier.
Celui qui a pas trop marché, là. Je me souviens, c'était.
Il est passé sur M6, ouais, la dernière, elle était sur M6.
Il a fait un flop.
Ouais, malheureusement.
Oh, mais c'est pas grave. Et puis Jamel, là où il a été intelligent, c'est qu'il a dit, ouais, c'est bon, j'arrête.
Ouais, il est producteur maintenant.
Voilà, là, il a compris que c'était plus pour lui. Après, ouais, pour moi, c'est pas ça, c'est pour moi. Bref, c'est un truc, mais je pense qu'il faut qu'il, je sais pas, faut changer d'équipe ou peut-être t'as fait différemment. Mais bref, après, c'est chacun fait ce qu'il veut.
Mais donc à l'époque, fan de Jamel.
Frérot, Jamel, c'était un truc de ouf. Jamel. Et après, j'étais tellement. Je dis, oh, écoute, ce que je veux dire, c'est grave ce que je veux dire. J'étais tellement fanatique de Jamel Debbouze.
Que tu marchais avec la main dans la poche.
Mais même encore aujourd'hui, frérot. j'ai 30 ans.
Ouais.
Je me surprends à remettre encore. J'ai un tic depuis que je suis petit.
Ouais.
Je mets ma main dans la poche et je marche. Tu verras quand on va marcher.
Ah ouais.
D'accord. Regarde-moi que tu vas marcher quand je suis concentré, main dans la poche. Toujours. Et je dis, mais. Oh. Des fois, je me dis, mais t'es un con, quoi, toi, ça y est.
Je vais t'appeler Amin Djebouz.
Amin Kadbouz. Ouais, et puis voilà, j'étais un grand fan. Après, ma cousine, elle est venue chez moi, elle m'a dit, attends, t'aimes bien Jamel? Tiens, regarde, je te ramène ça. Et elle m'a fait découvrir Gad. Et je dis, non, mais je m'en fous, c'est Jamel, moi, c'est Jamel Gad, je m'en fous.
Elle me met
L'autre, c'est moi.
Oh.
Alors là, frérot. Et là.
Pour moi, c'est son meilleur aussi.
Non, Papa et Toro aussi, c'était pas mal. Papa et Toro,
j'ai moins aimé. Moi, j'étais vraiment sur L'autre, c'est moi. Ouais.
Et les deux.
Les comédies musicales et tout machin.
Les deux, ils m'ont. Et quand j'ai vu ces deux mecs-là, je me suis
dit. Ton cerveau, il a vrillé.
Ça y est, frérot.
C'est ce que je veux faire.
Je me suis dit, ça y est, c'est ce que je veux faire. Et depuis donc, le CE2, j'ai toujours été le mec le plus drôle de mon collège. C'était mon but dans ma vie.
Ouais, ouais.
Être le plus drôle de l'école, être le plus drôle du collège, être le plus drôle du lycée, être le plus drôle de la fac. Sauf que arrivé à la fac, j'ai compris qu'il y avait d'autres mecs dans d'autres villes qui avaient le même rêve que moi.
Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'aujourd'hui t'es le plus drôle du Pôle Emploi?
Couple.
Ce sera coupé.
Ah ouais, là j'ai compris qu'en fait.
Si vous entendez, c'est que je l'ai pas coupé. Bon, c'est pas grave.
Ah, là, donc, là,
t'as compris qu'il y a d'autres mecs en fait qui avaient la même chose que toi, le même background aussi parce qu'ils ont grandi à la même époque que
même
toi.
Truc,
donc ils ont eu les mêmes rêves.
Avec peut-être les mêmes rêves, sauf que eux ils avaient peut-être un peu plus travaillé à l'école que moi. Tu vois, et chacun arrivait avec son truc. Tu vois. Et à l'époque, il y avait pas besoin entre guillemets d'être moi ce que je kiffais c'est Jamel, ce qui m'a vraiment fait avec le recul, ce qui m'a fait vraiment kiffer ce mec là c'est que je me suis dit déjà c'est un mec de banlieue,
c'est comme nous en
c'est
fait
un rebeu.
Comme nous, voilà.
Il est handicapé, il est pas beau, mais frère il fait les meilleures interventions de télé avec Barry White sur Canal Plus.
Oh, c'était
pas quoi.
Génial ça. C'était une époque où
la starification, elle existait vraiment.
Oui.
Genre maintenant, t'as
la télé, ça avait un pouvoir.
Voilà.
Aujourd'hui, tu fais une émission télé, ça peut buzzer. Mais non. La plupart du temps, tu vois, moi, j'ai des potes qui ont fait VTEP et tout, et je suis content pour eux, tu vois. Mais j'en ai pas entendu parler. Je l'ai vu par hasard, en fait. Mais c'est pas comme à l'époque. À l'époque, tu te retrouvais, je dis une bêtise, tu te retrouvais à faire, par exemple, je sais pas moi, ben tiens, tu vois, Vivement Dimanche, mais tu sais, il y a longtemps, plus maintenant, tu vois. Mais à l'époque, tu faisais Vivement Dimanche avec Michel Drucker, ça y est, t'étais validé, tu vois, ouais. T'avais quand tu faisais des émissions, allez, on va remonter plus en arrière encore, j'ai eu Michel Leb, j'ai eu la chance d'avoir Michel Leb dans le podcast,
ouais.
Il m'a raconté qu'à l'époque, il avait fait une émission avec Guy Lux, ouais, à l'époque, il y avait trois chaînes, peut-être, ou un truc comme ça, donc là, tu passais, ta carrière était lancée, ouais. Il m'a dit, tu faisais un passage, tous tes spectacles étaient complets pendant 2 ans, un passage, aujourd'hui, tu fais un passage, bon bah, Psartek, quoi, next, ouais. Tu vois.
Bah, attends, c'est YouTube, frérot, YouTube, tu vois, des YouTubers, des Squeezie qui font des 12 millions de vues en une semaine, frérot,
ouais.
On parle de 1 million de vues par heure tous les deux, mais pour,
ah, c'est balèze.
Tu vois, là, ouais, moi j'ai mon pote, bah, j'ai mon frérot, tu dois connaître Jamel Kaibou.
Bien sûr.
Jamel Kaibou qui a fait un passage chez Squeezie là.
Ouais.
Et en gros, c'est sa série d'émissions qu'il a fait, c'est Qui est l'imposteur.
Ah oui.
Et il y avait Mister V, Jonathan Cohen et Squeezie. Et en gros, l'imposteur, c'était qui est le vrai imitateur ou pas, tu vois. Qui sont les vrais imitateurs, il y avait un faux. Et il y avait Jamel Kaibou. Donc, il était déjà un peu connu sur TikTok, mais depuis qu'il a fait cette vidéo,
ça a pété.
Mes frères, partout, il marche, les gens, ah, mais c'est toi que j'ai vu.
Ah ouais, mais de toute façon, tu fais un passage dans une vidéo de Squeezie ou un truc comme ça, ça y est, t'es arrivé.
Ouais, bah ouais. Après, je pense qu'il faut qu'il en fasse plus.
Faut travailler, évidemment. Ouais. Mais je veux dire, ça, alors, voilà, évidemment, si tu n'es personne, que tu travailles pas du tout et que tu passes chez Squeezie, oui, on va te reconnaître dans la rue, mais t'auras rien derrière. Mmh. Mais par contre, si t'es un bosseur et que tu manques juste de visibilité, comme Jamel Kaibou, qui est un excellent imitateur, moi je le connais depuis des années, et il est super fort et il a pas la carrière qu'il mérite, tu vois.
Ça va arriver, Inch'Allah, ça va arriver.
Inch'Allah, tu vois, mais je veux dire, ce coup de boost-là, cette lumière-là, elle est intéressante.
Ouais, bien sûr.
Ouais. Voilà.
Ouais, carrément.
Je comprends, je comprends. Et donc, toi, dans ton parcours, tu vois, pour être le plus drôle, pour être le meilleur, il y a d'autres anecdotes qui t'ont marqué vraiment ?
Ah, il y a eu plein de moments gênants. Il y a eu des trucs, il y a eu des trucs où, ouais, où... Il y a un moment qui m'a marqué. J'avais joué au Café Oscar. Et je me souviens, j'avais gagné un truc pour jouer avec, sur un gros plateau. Et en gros, je connaissais aussi un petit peu Michael Montadir à l'époque.
Oui.
Et donc j'ai gagné les auditions et j'avais gagné le droit de jouer avec Hakim Djemili. Il y avait Dikosh, il y avait Tariq, je crois.
Ouais.
Et il y avait peut-être des grosses têtes.
Ouais.
Il y avait Jérémy Nadeau.
Ah.
Jérémy Nadeau.
Donc c'était quand même assez récent.
Non, ça fait quand même un bon 5 ans. Ça fait d'accord. 2018, je pense.
2017, ah d'accord. Je pensais pas que Jérémy Nadeau montait sur scène aussitôt.
2018-2017, je crois.
D'accord.
Et, je suis sur scène et je commence à faire mon sketch. Parce que je passe en premier. Et franchement, ça marche pas de ouf. Ça marchouille, mais pas de ouf. Et moi, j'ai les potes qui sont venus me voir.
Ah, c'est gênant.
Non, mais en fait, ça, eux, ils m'ont encouragé. Et tu sais, dès qu'ils disent, ouais, Amine, et eux, ils commencent à crier, ah, Amine, moi, ça me gêne. Ça me gêne un peu.
Oui, bah,
ça me gêne parce que tu
quelque part, ça peut torpiller ton passage.
Bah, non, même pas.
Parce que les gens se disent, ouais, il a amené son fan club.
Voilà.
Ce sera biaisé.
Il y a un truc où tu sais, les humoristes, ils disent, ah ouais, vas-y, frère, il ramène.
C'est ça le problème. Et le pire, c'est que tu leur as pas demandé.
Et bref.
Et ils pensaient te rendre service. Hein, ça
eux,
partait,
ouais, donc.
Ça passait, en fait, ça partait d'une bonne intention.
À personne.
Absolument.
Et Michael, il me dit quoi? Il me dit, ah, t'as ramené tes potes ou quoi? Je savais même pas qu'ils étaient là. Bref, et j'étais un peu gêné, et ça m'a un peu déstabilisé. Donc je commence à faire mon sketch et tout, et je vois, tu sais, bah forcément, les autres, les Dikosh, les Hakim, ils tendent leur tête pour regarder ce que je fais. Je joue, et genre, je vois pendant le passage, ils rendent tous leur tête. Donc je dis, ah, j'ai fait de la merde. Mais c'est pas grave, j'enchaîne mon truc, mais ça me déstabilise un petit peu, tu vois. Maintenant, alors qu'il est là, frérot.
Ça te ferait rien.
Après, maintenant. Mais donc, c'est pour ça qu'il en faut des moments comme ça. C'est important.
Ouais, ça te forge.
Flopper, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner.
Ben. Oui, enfin, on apprend
sans vraiment vouloir le faire. Hein.
Mais on apprend, en fait à travers les beats. Ouais. C'est Sébastien Marx qui disait ça dans son podcast. Son podcast Donc Voilà Quoi. Il disait on apprend plus d'un bid que d'une bonne soirée.
Oh,
quoi.
De ouf,
et c'est logique.
Bonne soirée, t'es content et tout. En fait,
c'est juste un boost d'ego. Ouais, c'est voilà, tout. C'est mais t'apprends rien. Voilà. Un bid, tu sais ce que t'as fait ou ce que t'as pas fait.
Exactement. Et en gros, je crois que c'était la même période où je t'ai fait lâcher Chalin. Je refais le même sketch. J'avais un sketch sur mon ex qui était, à qui je suis resté 5 ans, qui elle est du Togo, du Ghana. Et au final, je fais une vanne à la fin. La vanne, c'est moi, mon ex, elle est togolaise. Et grâce à elle, vous savez comment on dit je t'aime en togolais ? On dit prête-moi 20 euros. Mais tu sais, voilà.
T'as dû te faire un sans.
Non, même pas. Parce non, que, non, parce qu'à l'époque, il y a 5-6 piges, les vannes comme ça, ça passe normal.
Ouais.
T'es pas dans un truc.
Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Ouais, et puis moi, j'étais dans un humour un peu. Dans un humour clash, et comme avec mon ex, elle aime.
Oui, en fait, t'as transcrit ce que tu vivais avec elle.
J'ai écrit ce que j'ai avec elle.
Vous étiez dans une ambiance de vanne, et c'est ce qui fait tenir les couples.
Ouais,
tu vois.
De ouf.
Voilà, et donc, en fait, t'as transcrit l'ambiance de chez toi. Sur scène.
Bien sûr. Et puis,
ouais.
Maintenant, j'en veux plus. Mais j'avais une autre vanne. Elle était hard de ouf. Elle était hard. J'en ferai plus. Tout cela dit. Elle était grave crue.
Attention, mesdames et messieurs, c'est une exclusivité.
Je disais quoi? Je disais, en gros, je dis, voilà, moi, je sortais avec une Renoir. Elle est du Togo et du Ghana. Moi, je suis algérien, marocain. Et nous, en fait, on s'aime bien, mais que dans les clips de rap. Voilà, je dis, en gros, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Moi, chez moi, ma famille, elle détestait, tu vois. Et je dis, là, on était en 2004, ouais, 2016, tout ça. Et je dis, voilà, moi, les Noirs, je vous aime bien. Vous sentez le cuivre, c'est pas grave. Mais quand j'ai fait cette vanne-là, ça rigolait à chaque fois parce qu'en fait, ça sortait du lot.
Non, mais je pense que c'est le mot cuivre.
Ouais, et en fait, mais ça.
Parce que c'est un mot qui est un peu spécial.
Ah là, sauf que quand je la faisais avec mon ex. Elle me vannait de ouf. Hein.
Ouais, ouais.
On avait une liberté de ouf, on se terminait de ouf. Et tu sais, moi au quartier, avec les potes, on se termine de ouf. C'est pour ça qu'en fait, moi, ça me fait gorer quand j'arrive dans un comedy club et qu'on me dit, ouais, ou quand je vois les autres, faut pas dire ça. Frérot, qu'est-ce que t'en sais, gros? Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. En fait, c'est aussi une question de comment tu refais tes trucs. Tu peux faire une vanne qui peut être grave malaisante, comme on a vu la dernière fois, hier soir avec la meuf là. Et un mec qui fait la même, mais comme tu sens que son clown, comme Alban Ivanov. Alban Ivanov, il peut être horrible, mais comme tu sais qu'il n'est pas un raciste.
Ouais.
Ça passe,
ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
En fait, le public sent l'intention derrière.
Exactement. Et moi, en fait, il n'y avait aucune mauvaise intention. En fait, ça se voyait que c'était un mec Parce que je parlais de mon ex et je disais aussi qu'elle me terminait de ouf. Hein. Donc en fait, ça passait. Tu vois, c'était pas méchant. Et je sors de scène et il y a Jérémy Nadeau qui me dit, franchement, c'était cool, t'as bonne énergie et tout. Il me dit, si je peux me permettre juste un truc. Et je dis, ouais. Il me dit, tu vois, la vanne sur le prête-moi 20 euros, ça ressemble beaucoup à celle de Redon Bougueraba.
Ah?
Et je dis, ah ouais? Il me dit, ouais, ça ressemble beaucoup à Redon. Et l'autre, ça ressemble à ça.
Ah.
Et je dis, mais attends, t'es sérieux? Et en fait, il me dit, ouais, alors je dis pas que tu l'as volé, je dis pas ça. Je dis, en fait, voilà, il est plus connu que toi.
Malheureusement, ouais, les gens vont associer ça tout de suite à du plagiat, ouais.
Voilà. Donc au final, je fais quoi? Je dis, bon, ok.
Et t'as enlevé la vanne.
Bah ouais, j'ai arrêté de le faire. Mais en vrai, j'en ai pas voulu, pour ça, je l'ai remercié. Parce que c'était le seul.
Oui, c'était bienveillant.
Et c'était le seul qui m'a dit ça, tu vois. Moi, tu vois, maintenant, je fais pas de retour à des gens, j'en fais plus. Parce que je sais pas comment ils peuvent le prendre et je suis personne pour leur faire. Si on me demande un retour, je le fais avec grand plaisir. Mais encore une fois, je suis personne pour faire un retour. Mais voilà quoi. Mais bref, il y a ça et il y a un deuxième truc moi qui m'a aussi beaucoup marqué. C'était pareil, même année, enfin 2017-2018. J'avais rencontré un mec sur Paname qui faisait des comédies clubs dans un hôtel. Et pareil, c'était un gros plateau. T'avais des très gros humoristes. T'avais Sugar Sammy,
ouais.
T'avais Noman Osni,
ah.
T'avais Fari, t'avais Roman Fraissinet,
ah oui,
t'avais
lourd de
ouais, lourd de ouf. Et moi j'étais régisseur derrière.
T'étais régisseur.
Régisseur.
Ah,
et en fait la scène, elle était faite en sorte qu'elle était genre surélevée comparée au public. Et le DJ donc moi le régisseur, j'étais derrière la scène. Ça veut dire que j'étais caché juste en dessous. Et en fait on voyait que ma tête qui dépassait. Tu vois, c'est-à-dire que.
On aurait dit un mec qui essayait de s'incruster.
Voilà, on aurait dit, frérot, le mec relou en soirée. Forcément, bah, j'étais le mec qui fallait vanner, tout le monde me vannait, tous les humoristes me vannaient. Et Roman, c'est le seul qui arrivait avec un truc de. Vous pouvez faire du bruit pour Amine, s'il vous plaît.
Ah,
il s'était renseigné sur mon nom, sur mon prénom. Je l'avais rien dit, hein. Il dit, ouais, fait du bruit pour Amine et tous ses régisseurs pour la soirée et tout. Et il commence le sketch. Et Roman, il fait un. On va dire, ouais, il flop. Il fait un mauvais passage de ouf.
Ça peut arriver.
Et à la fin, je vais le voir et tout. Il me dit, salut Ramin, t'as kiffé? Je lui dis, écoute, moi je t'avais déjà vu. Je lui dis, franchement, je vais pas te mentir, c'était pas le meilleur truc que t'as fait. Je lui dis, mais par contre, respect parce que j'avais jamais vu ça. Et il me dit, bah oui, je l'ai écrit ce matin. C'est un très gros bosseur ce mec-là. Et il me raconte qu'en gros, là où il a été intelligent, c'est qu'il arrive à dissocier l'humoriste de l'humain, c'est-à-dire qu'il arrive, enfin, à travers lui-même, hein, il arrive à se dire, c'est pas moi qui suis pas marrant, c'est mon texte qui est mal fait. Tu vois ce que je veux dire ?
On a tous du mal avec ça, parce qu'on a beaucoup d'ego, et ça. On se dit les gens ne m'ont pas aimé.
Voilà,
non, c'est le texte qu'ils n'ont pas
voilà,
aimé.
C'est qu'en fait, c'est même pas qu'ils n'ont pas aimé. En fait, lui là, il est très fort, et c'est pour ça que pour moi c'est un Benzema, c'est un mec il a une mentalité de champion du monde. C'est-à-dire qu'il m'a dit, regarde là mon texte, je suis à l'étape 1. C'est-à-dire que là, c'est entre guillemets le premier jet. Alors c'est pas le premier jet qu'on va faire en mode ah ouais c'est marrant pas marrant bon je le fais vite fait, non, c'est un premier jet qu'il a très bien travaillé,
c'est un premier jet de bon niveau, déjà
de très bon niveau, premier jet, tu vois. Il avait ok, donc là en fait il m'a dit, moi je travaille par étapes, là c'est son premier jet, le lendemain il va retravailler, il va le refaire. Mais en fait il a réussi à dissocier voilà le fait que c'est Roman et que c'est pas Roman qui est pas marrant, c'est son texte. Je l'ai revu genre avec le même texte, je crois 2 semaines après, frérot, carton plein, parce que
voilà. Bosseur.
Mais bosseur, parce qu'il est rentré, il s'est enregistré. Je crois que c'est l'un des seuls qui s'est enregistré. En fait, c'est un mec, il est trop. Il est rentré, il s'est enregistré, il a taffé. Il a bossé. Le lendemain, et je ne sais pas combien d'applauses. Il faisait du passage.
Et le texte, il avait beaucoup bougé ou pas?
Ouais. En fait, il avait gardé les bases.
Ouais.
Il avait rajouté des techniques et tout. En fait, je pense que lui, comment il fait, c'est qu'il a son idée, il a sa trame, il bosse sa trame, il voit vers où ça peut galerie.
Mm-hmm. Tu vois, il brode autour après.
Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je vais te raconter une histoire. Là, je sens que ça peut galerie là, ok, bah, je vais travailler là. Là, je sens que ça peut galerie là, je vais travailler là. Et tout le reste, il enlève. Après, il enlève les phrases parasitaires.
Il écrème et tout, ouais, ouais.
Voilà, après, il rajoute des techniques d'Edman. Là, je vais mettre une exagération. Là, je vais mettre une hyperbole. Là, je vais mettre là. Là, je vais mettre une comparaison. Là, je vais faire ça, tu vois.
C'est bien, ça force le respect. C'est un bosseur, ça, c'est clair, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup son style et tout. Il est vraiment doué. Moi, je l'avais vu à l'époque, j'avais dû le voir en 2018, peut-être. 2018, un truc comme ça, mais ça devait être à peu près à la même époque que toi. Mmh. Et j'avais joué avec lui à l'Underground Comedy Club au Sentier des Halles à l'époque.
Sentier des Halles, oui.
Voilà, et on avait joué là-bas et tout, et j'avais trouvé son passage vraiment fort. Il avait raconté, je sais pas, tu l'as vu son spectacle?
Et alors?
Et ouais.
Oui, il est sur YouTube. Là.
Oui.
Oui, je l'ai vu.
Et ben, du coup, il faisait le morceau où il raconte son rêve là avec le serpent et tout. Tu vois?
Ouais, je me souviens plus trop.
C'est un rêve où il parle d'un tatouage de serpent et il dit le serpent, il est allergique aux arachides. Et tu dis, mais comment t'as fait pour mettre un serpent allergique aux arachides sur un tatouage? Et quand tu vois le tatouage, tu dis, oui, il est allergique aux arachides. Ouais. Tu vois, il part dans son délire et tout. Ouais. Et je l'avais vu faire ce morceau-là. Désolé, Roman, hein, j'ai vraiment pas rendu justice à ton texte. Ouais. Mais donc, je l'ai vu faire ce morceau-là. Déjà, j'avais trouvé ça génial. Ouais. Et quelques mois plus tard, il explose dans Click. Et je me dis, mais c'est normal. Le mec, il est trop fort. Ouais. Donc voilà.
Après, ça, c'est qu'encore une fois, c'est des mecs qui font ce qu'ils leur ressentent. En fait. Ils tanguent vers ce qu'ils leur ressentent.
Vers eux-mêmes. Ouais, vers leur personnalité. Voilà. Leur clown, en fait, ressemble de plus en plus à leur vraie personnalité dans bien la sûr. Vie. Je comprends. Mais écoute, c'est vrai que ça force le respect et ça donne des clés un petit peu pour aussi se démarquer l'humain de l'artiste, en fait. L'artiste fait quelque chose, l'humain. C'est autre chose, tu vois, c'est pas la même chose. C'est ton texte qu'ils n'ont pas aimé, c'est ta performance. C'est comme c'est quand moi j'étais chauffeur de bus, les gens quand ils m'insultaient, on dirait le gars, bah écoute, c'était mardi dernier et non, Dieu merci, j'ai pas eu de trucs violents. Mais quand un chauffeur de bus se fait insulter, par exemple, sans raison, je parle pas d'un mec par exemple qui a grillé un feu, qui a failli écraser quelqu'un, je parle pas de ça. Je parle d'un mec par exemple, quelqu'un monte vénère parce qu'il déteste l'entreprise et il commence à l'insulter et tout. Et ben, on nous le dit au boulot, à l'époque, on nous disait, c'était pas vous qui l'insulte, c'est l'uniforme. C'est le fait que ce soit vous.
Mais c'est comme n'importe quel truc, c'est qu'en fait, tu t'insultes pas le mec, tu le connais pas.
Voilà.
Donc tu vas
insulter l'uniforme. Faut pas le prendre personnellement, je comprends. Mais c'est dur, mais bon, bah écoute, on prend. Les beats, quand on les prend personnellement, c'est pas facile, mais ils sont nécessaires pour avancer, t'as bien raison. Sûr. En tout cas, bah, merci beaucoup, Roya, pour cette belle discussion et des belles réflexions, des belles anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Roya, sur les réseaux sociaux?
Alors, c'est sur Instagram, toujours Amin, Amin-Diez, mais ça, je vais le changer encore une fois. Je sais pas.
T'inquiète pas, au moment où sortira le podcast, je regarderai quel est le bon nom et je le mettrai, t'inquiète, y a pas de souci. Cool. Mais donc, à la base, aujourd'hui, c'est encore Amin Diez.
Amin Diez, ouais.
Voilà, d'accord. Très bien. Et Facebook, YouTube, Twitter, peut-être TikTok.
Non, j'ai tout enlevé. TikTok, même le Twitter, je vais le refaire. Là, je suis plus. Pour l'instant, je tourne beaucoup plus sur Genève et sur, tu vois, la frontière.
Ouais.
Anma, Genève, Thonon, Lausanne, enfin bref. Et je reviens m'installer définitivement courant 2025. Sur Paris.
Ah, tu reviens? Ah oui, d'accord. Ah cool, bah écoute, bon retour à toi. Hein.
Ouais.
Et ben c'est super, on suivra ça avec grand plaisir.
Bah, merci beaucoup.
Et ben merci à toi. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.